Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée, de leur pensée ou des auteurs qui leur sont chers. À 10h46, Géraldine Mosna-Savoie vous proposera, comme tous les vendredis en période électorale, son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Et elle donnera aujourd'hui quelques précieux conseils philosophiques à Manuel Valls. Au programme aujourd'hui, cinéma et philosophie, Deleuze et Visconti, Shakespeare et les damnés, en avant-toute sur les chemins de la philosophie.
La métaphysique de la lumière rongée par la mort, la force des pulsions et l'opacification des formes, le temps comme substance vivante et le crépuscule d'un monde. Mes premières rencontres avec l'univers viscontien, avec ses films, ont été placées sous le signe des paradoxes qui sous-tendent son esthétique. La désorganisation temporelle et spatiale que Luchino Visconti opère sous une forme faussement classique rebondit sur le spectateur, lui brouille les sens. On ne sort jamais de la valse du guépard, on glisse entre ses notes, on ne sait plus où commence, où finit le Risorgimento. À s'immerger dans la terre tremble, Rocco et ses frères, le guépard, Sandra, les damnés, mort à Venise, Ludwig, ont fait doublement l'expérience du trop tard. Une fois comme révélation d'un principe, une fois comme effectuation. Toute aurore est un crépuscule, mais toute chute élève, semble nous dire Visconti. Sous le nom montré, le nom dit des films, le travelling de notre vie défile, je parle de notre vie impersonnelle, dissoute dans une nature éternelle, dans une histoire désaccordée.
Bonjour Véronique Bergen.
Bonjour.
On est d'emblée dans l'ambiance des damnés, vous reconnaissez
oui.
la musique.
Bien sûr.
Ce qui fait peur quand on a vu le film, alors on ne va pas tout déflorer tout de suite. Vous êtes philosophe, écrivain et poète. Vous avez écrit parmi les ouvrages que j'ai sous les yeux, en tout cas, un ouvrage qui s'appelle Fétichisme aux éditions Kimé, un ouvrage sur Janis Joplin aux éditions Aldante et un ouvrage sur Hélène Cixous, La langue plus que vive. Janis Joplin, Hélène Cixous et maintenant Visconti. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire sur Visconti?
C'est une passion qui date depuis très longtemps, de l'adolescence, donc l'exergue en atteste, puisque j'ai dédié le livre à Helmut Berger.
Qui est l'acteur fétiche.
L'acteur fétiche, effectivement, dans Les damnés, dans Ludwig, Louis II de Bavière, et dans Violence et Passion. Et donc j'ai longtemps porté Visconti en moi. Et bon, des décennies après, je me suis dit que j'allais consacrer un livre en analysant particulièrement donc les damnés et aussi le scénario Proust, scénario qui est resté dans les limbes, en germe, qui n'a jamais vu le jour, mais qui innerve l'ensemble de l'œuvre de Visconti. Et donc j'avais fait du scénario Proust l'équivalent, puisque vous parliez d'Hélène Cixous, le livre que je n'écrirai jamais chez Hélène Cixous, chez Visconti, c'est le film que je n'ai ne tournerait jamais, qui ne pouvait pas être tourné parce qu'il aurait simplement, je pense, peut-être brisé le processus de création puisque c'était le nerf, la cheville ouvrière.
Parce que Visconti a toujours rêvé de faire un film sur Proust qu'il n'a jamais fait.
Oui, donc le scénario est là. Il a toujours dit ce sera mon dernier film. Et donc les leitmotifs proustiens sont omniprésents dans le cinéma de Visconti. Donc on peut dire que Proust était déjà cinéaste et que dès lors, adapter Proust était comme s'adapter lui-même. Donc il y a une impossibilité, mais c'est comme un peu la case vide qui assure le moteur de l'entreprise de Visconti.
Le cinéma de Visconti peut se lire à travers beaucoup de prismes, celui de Proust en est un. Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze aussi nous aide à le lire et vous le convoquez beaucoup dans cet ouvrage, puisque c'est Deleuze qui propose une analyse de Visconti comme étant à la charnière entre un ancien monde et un nouveau monde et entre une ancienne manière de faire du cinéma, si j'ose dire, et une nouvelle manière. Écoutons peut-être Deleuze qui, dans un cours de cinéma du 5 juin 1984, parle des damnés, donc le film de Visconti que vous analysez dans cet ouvrage en particulier, pour montrer comment dans ce film une histoire, peut-être avec un grand H, s'articule dans l'histoire d'une famille et qu'en cela, peut-être ce film-là nous dit quelque chose du temps qui passe. Écoutez.
Je peux dire que l'histoire, elle accélère la décomposition du cristal. Mais elle ne se confond pas avec cette décomposition. Visconti est un des auteurs qui assure l'histoire le plus présent. Et en même temps, il le fait d'une manière très originale. Il me semble toujours que l'histoire, elle intervient comme une vue rasante, ou comme un rayon rasant, qui vient précipiter ou même couper le monde cristallin des aristocrates, et qui procède de deux manières différentes. Tantôt, elle est hors champ. Et là, c'est très intéressant, parce que d'une certaine manière, elle est d'autant plus présente que hors champ. C'est-à-dire, on ne la voit pas. Parfois, au contraire, elle est visible. C'est les damnés. La lutte des SA et des SS. La liquidation des SA par les SS. Tout ça est montré.
Tout ça est montré et tout ça est dit. Ce que dit Gilles Deleuze ici en à peine une minute, Véronique Bergen, pourrait résumer tout ce qu'il y a à dire sur Visconti d'un point de vue philosophique, enfin du point de vue qu'est celui de Deleuze. Trois points qu'on va développer ensemble. Il fait référence au cristal pour parler de Visconti. Alors vous allez nous dire pourquoi le cristal, hein, pourquoi est-ce que Deleuze se sert du cristal pour penser le cinéma, en particulier celui de Visconti, la façon qu'a l'histoire de s'insérer dans le film et puis surtout le tout ça est montré, ça veut dire que d'autres choses ne sont pas montrées et l'utilisation du hors-champ chez Visconti est très importante aussi pour penser son cinéma. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que l'image cristal chez Deleuze et comment est-ce que vous la faites jouer avec le cinéma de Visconti ?
Et donc, effectivement, Les promesses du crépuscule, déjà le titre fait directement référence à Deleuze, puisque quand il analyse Visconti, il parle du leitmotiv du trop tard, sur lequel on reviendra. Et donc, l'approche de Deleuze par rapport au cinéma de Visconti, dans le premier volume, donc l'image-mouvement, est de voir dans ce cinéma ce qu'il appelle un cristal en décomposition. On ne va pas refaire tout le soubassement de l'analyse deleuzienne des images, mais disons que pour Deleuze, à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a une crise donc du référent objectif qui se répercute dans le cinéma lui-même. Et donc là où le cinéma les premiers soubassements apparaissent déjà chez Hitchcock ou dans la Nouvelle Vague et par la suite, c'est-à-dire que l'image n'est plus une image classique mais bascule dans ce qu'il appelle l'image moderne du cinéma. Et de la façon la plus simple possible, on peut le présenter ainsi. L'image classique est une image d'action où à chaque situation, c'est ce qu'il appelle le circuit SAS, situation-action-situation, ou ASA, action-situation-action, le personnage qui est inséré dans une histoire a la riposte possible par rapport à ce qui lui advient. À partir du moment où l'image n'est plus une image action, mais une image cristal, il y a ce que Deleuze appelle la crise du schème sensori-moteur, c'est-à-dire que le personnage, au lieu d'être acteur, au lieu d'être agent de sa propre histoire, devient passif, devient ce que moi j'appelle alors somnambule, voyant, puisqu'il est dépossédé de sa capacité à réagir.
C'est-à-dire que c'est le lien de causalité qui change entre le cinéma avant la Seconde Guerre mondiale et celui d'après. Il n'y a plus une action cause une réaction. Le lien entre action et réaction est comme dissous.
Oui, il y a comme, on pourrait dire que chez Kant, ce sont les anticipations de la perfection, de la perception, quel beau lapsus, perfection, se délitent. Et donc, on peut donner peut-être des exemples dans le cinéma de Visconti, ce sera plus clair. Dans Senzo, la comtesse est véritablement dans un état de somnambulie, de fascination par rapport au lieutenant Franz Mahler, le professeur dans Violence et Passion aussi. Et donc, dans chaque film de Visconti, il y a cette présence presque d'une autonomie des objets et donc d'une hétéronomie des sujets.
C'est-à-dire
le sujet, justement, n'a plus la capacité de faire l'histoire.
Il subit davantage l'histoire qu'il ne l'a créée.
Exactement. C'est pour ça que Deleuze, quand il analyse également le cinéma de Visconti, montre qu'il y a le schéma dialectique est tout à fait éclaté, puisque ce qui était harmonieux entre l'homme et le monde est simplement en crise. Et donc, si on prend l'exemple des damnés, dans tous les films, Visconti a voulu ausculter presque sous une forme généalogique, les moments de crise, les moments de basculement, les moments où les pulsions font tout dévier, et cela bien sûr au niveau de la micro-histoire ou de la macro-histoire. Si on prend le cas des damnés, donc ça fait partie de ce qu'il appelait une tétralogie allemande qui est devenue une trilogie allemande. Donc après il y a eu Mort à Venise et Ludwig, et la montagne magique devait donc clôturer ce qu'il appelait, Visconti appelait la tétralogie, en référence à la tétralogie de Wagner. Et donc, les damnés...
1969.
Oui, 1969, avec... on va pas refaire le casting. Mais donc,
il y a quand même quelques personnages qu'on s'attend pas à voir.
Il y a Ludberger, bien sûr.
L'acteur fétiche de Visconti Ludberger. On trouve Charlotte Rampling aussi.
Il y a Charlotte Rampling, qui est absolument sublime. Sublimissime. Ingrid Tulin, dans La mère dévoratrice, la Lady Macbeth germanique. Et donc, les damnés, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'adaptation très, très réussie de Ivo Vanov à Avignon l'année passée, c'est l'histoire donc d'une famille qui pourrait être les Buddenbrook ou les Krupp, donc au niveau historique, qui se délite, qui se déchire, et donc dont tous les membres vont se disloquer pour être finalement, sont des grands manias de l'acier, et donc récupérés par le Moloch, l'ogre du national-socialisme. Et donc le génie de Visconti est de montrer cette unité familiale qui est déjà un ersatz ou un simulacre au début, mais avec l'introduction de Aschenbach, qui peut être vu comme le pendant des sorcières dans Macbeth, parce qu'on peut faire tout un parallèle qui ne vient pas de moi, Olivier Maillard et d'autres spécialistes de Visconti l'ont fait. Donc avant le scénario des damnés, il y a eu le Macbeth 1967, et effectivement on peut voir les damnés comme une transposition germanique au XXe siècle de la célèbre pièce de Shakespeare. Et simplement l'approche de l'histoire de Visconti dont parle Deleuze, c'est une approche totalement shakespearienne, puisque chez Visconti, l'histoire est une mascarade de la force. Donc l'histoire n'est que une scène de pulsion où les fauves sont en train de s'étriper. Et donc c'est une histoire où le temps est hors de ses gonds. Il n'y a plus moyen de rattraper la dialectique une fois qu'elle se désaxe et qu'elle se corrode. Donc il y a...
Quand vous parlez d'électif, vous voulez dire le lien finalement entre l'homme et le monde.
L'homme et le monde, oui. Et aussi l'homme et lui-même. Donc c'est ce que Deleuze appelle l'arrivée du trop tard, parce que tout se mine progressivement, et parfois il y a un événement qui pourrait sauver la chose, mais l'événement arrive trop tard.
Ça c'est intéressant, cette esthétique du trop tard.
Moi ça m'a toujours, oui, effectivement. Parce qu'on peut voir aussi en parallèle entre Visconti alors et notre époque. Parce que comme vous disiez, Visconti, il décrit toujours une période intervallaire entre la fin d'un régime et l'avènement de quelque chose qui n'a pas encore été vu. Et donc dans ce livre, je tenais à casser la vision un peu trop doxique d'un Visconti qui serait scindé en deux. Donc on a toujours vu le premier Visconti comme un tenant du néo-réalisme, avec les premiers films Ossessione, qui est tiré du Facteur sonne toujours deux fois, bien sûr La Terre tremble, Bellissima, et le second Visconti, à partir de Senzo ou du Guépard, bien sûr, qui verserait dans une esthétique de la décadence. Et donc, à favoriser cette lecture de deux Visconti, d'une part, on perd bien sûr l'unité et le souffle, la puissance génésique de Visconti, mais généralement, alors, les critiques et les commentaires commentateurs ont joué l'un contre l'autre, puisqu'on sait que Visconti était un haut aristocrate de Milan, et donc on voit le premier Visconti comme proche de Gramsci, de Marx, comme rallié le prince rouge, rallié à la défense des opprimés, et puis c'est comme s'il avait été rattrapé par des origines, ses origines aristocratiques, et au lieu de s'intéresser aux opprimés, ce qui fait le thème effectivement du néoréalisme, il se serait complu dans une espèce d'analyse de l'agonie de sa propre classe et de la fin de la bourgeoisie. Et donc une des lames de fond de mon livre est de casser cette vision rigide d'un Visconti schizoïde, parce que d'une part, ça ne rend pas justice au dynamisme et au processus de sa création, et d'autre part, comme de Suzanne Liandraghi ou d'autres l'ont montré, chronologiquement, ça ne tient pas. On ne sait pas quoi faire avec Sandra ou avec Les Nuits Blanches. Et donc, quand on part justement de Deleuze et d'André Bazin, mais ce serait un peu trop long, mais de Deleuze, on voit très bien que cette séparation ne tient pas, puisque déjà, si on pense à La Terre tremble, dans ces images donc de pêcheurs et donc en proie à une pauvreté extrême, il y a déjà ce côté extraordinairement esthétisant. Donc il y a déjà dans le vérisme ce grand Visconti, ce souci de la forme. Et donc je pense aussi que si on scinde Visconti en deux, il y a toujours le parti pris. Généralement, on prend parti pour le premier, et donc le deuxième Visconti serait un traître par rapport à sa propre cause, et retournerait dans les volutes d'un classicisme un peu suranné. Et si les partisans du deuxième Visconti, jusqu'à L'Innocent, son dernier film, eux, me semble-t-il, enferment alors trop Visconti dans la posture d'un conservatisme, d'un passéisme, d'un nostalgique du temps passé, ce qu'il n'est pas. Donc il me semblait essentiel de faire sauter ce cloisonnement trop rigide et qui l'enferme, alors que dans l'œuvre de Visconti, justement, il y a la récurrence sempiternelle de leitmotiv qui traverse tous ses films du premier au dernier, même si son esthétique, bien sûr, a changé et même si sa position politique a changé, à l'optimisme des débuts succède quand même un pessimisme par rapport à l'émancipation de l'homme et aux possibilités d'une émancipation du prolétariat.
Ce que Deleuze montre très bien dans ses ouvrages consacrés au cinéma, hein, Image Mouvement, Image Temps, au début des années 80, et en particulier dans les quelques lignes qu'il consacre à Visconti, c'est que, pour aller abonder dans votre sens, Véronique Bergen, le cinéma n'est jamais qu'une forme qui exprime une époque, même quand on parle d'un cinéma d'avant-guerre et d'après-guerre, un cinéma qui est celui de l'image-action, un cinéma qui est celui de l'image-temps, ce n'est jamais simplement une manière d'exprimer ce qui est, mais que le cinéma est l'expression d'une nouvelle manière de penser. C'est pas simplement l'histoire qui a une influence sur le cinéma ou comment est-ce qu'on retrace l'histoire au cinéma, non. C'est le cinéma lui-même, le geste même proprement cinématographique qui exprime ce de quoi la pensée d'une époque est faite. Et en ce sens, Deleuze a absolument tout compris au cinéma de Visconti comme à beaucoup d'autres formes de cinéma, beaucoup d'autres cinéastes, mais il permet d'articuler, de montrer comment s'articule ensemble l'histoire d'un côté et le cinéma de l'autre. Et Visconti est le cinéaste emblématique pour ça parce qu'il intègre l'histoire en son sein. On va entendre Visconti, d'ailleurs, lui-même, parler des damnés et voir comment il se sent un peu aussi obligé de se justifier par rapport à cette classe très aisée qu'il donne à voir dans les damnés, le rapport à l'histoire. Et peut-être de manière assez surprenante, vous lisez son optimisme finalement. Écoutez.
Je crois que le nazisme est né par des responsabilités qui sont très bien individuables dans certaines classes de la société allemande. Je pourrais même dire de la société européenne. C'est pour ça que j'ai choisi le début de la barbarie du nazisme dans le cœur de la très civilisée Allemagne. Et c'est pour ça que j'ai choisi une famille qui, selon moi, représente la grosse responsabilité de la naissance de la barbarie naziste. Évidemment, c'est une classe qui meurt, celle que je suis en train de décrire, car le changement dans l'Europe entière, dans le monde entier, est une chose très évidente. Peut-être ce qui m'intéresse le plus, c'est de justement voir et suivre la déchéance d'une certaine classe, vous comprenez, tout en trouvant à la fin de cette déchéance la possibilité d'un ressort, la possibilité d'un sauvetage, disons. un sauvetage moral. Et dans tous mes films, il y a toujours à la fin cette possibilité. Vous diriez peut-être que dans Les Damnés, il y en a moins que dans les autres films. Ce n'est pas vrai, car j'ai mis là aussi la possibilité d'un changement total, donc d'un sauvetage d'une certaine angoisse et d'une certaine condition de vie qui était celle qui a été créée par le nazisme en Europe et dans le monde entier.
Martin, what are you doing here?
Go away, mother. Go away, please.
Allez-vous-en, maman. Allez-vous-en. Je vous en prie. C'est lui qui vous envoie.
Pourquoi l'aimes-tu tellement? Et moi? Tu détestes aussi ta mère.
Allez-vous-en, maman.
Écoute, Martin.
C'est vous qui m'écouterez. Ce n'est ni Aschenbach qui peut m'effrayer, ni Frédéric. C'est vous. Vous seul, vous qui êtes pour moi un cauchemar, vous qui vous opposez à tout, qui vous êtes efforcé de m'asservir coûte que coûte, en glissant dans mes mains tous ces rouges à lèvres et toutes ces perruques. Vous qui ne m'aimez pas, vous qui l'avez toujours préféré, vous lui avez tout donné. Tout ce qui m'appartient à moi, ma fortune, ma maison, mes usines, un peu plus chaque fois. Et même mon nom maintenant. Et votre amour. Vous êtes pire que tout. Voilà pourquoi c'est vous que je hais. Jamais vous ne sauriez croire tout le mal que je vous veux. Je suis décidé à vous détruire.
Quand en 1969, Visconti dit qu'il s'agit dans Les Damnés de voir la déchéance d'une certaine classe avec la possibilité d'un sauvetage moral, dit-il, on a un peu du mal à le croire, Véronique Bergen, parce que, en effet, dans Les Damnés, on vient d'entendre un extrait extrêmement violent, l'un des plus violents, c'est un film très violent, hein, moralement insoutenable, il y a les scènes de pédophilie, d'inceste, de viol, en plus du nazisme qui donne lieu à des violences, pour le coup, qui sont peut-être plus attendues, mais non moins terribles. On a entendu une scène où Martin, le fils de la famille dont il s'agit, déclare à sa mère qu'il ne l'a jamais aimée, qu'il la hait, d'ailleurs que c'est à travers la haine qu'il voue à sa mère, qu'il hait la société entière et la famille entière. On voit l'imbrication ici, hein, du refus de la loi de l'État, le refus de la loi familiale, avant de la violer. C'est ce qui se passe dans le film. Et c'est vrai qu'on a, du coup, on a du mal à avoir le... On voit très bien comment l'état de fait nazi, tel qu'il est décrit par Visconti, se retrouve à l'échelle familiale, on a plus de mal à voir la possibilité d'un sauvetage moral.
Tout à fait, parce que dans les autres films, effectivement, il y a toujours la possibilité que quelque chose dans ce cristal opacifié, dans cette déliquescence et de cette putréfaction surgisse, tandis qu'ici, c'est vrai que c'est en échec et mat, les damnés sont sans catharsis, c'est-à-dire c'est une damnation sans retour. Et effectivement, dans le personnage de Martin, il y a un côté aussi très kitsch dans le film, parce que Martin totalise effectivement toutes les perversions, le travestissement, la pédophilie, l'inceste, et donc c'est comme aussi toutes ces dérives ou ces faiblesses des protagonistes étaient utilisées par le Deus Ex Machina qui est Aschenbach, donc de la SS.
Et donc c'est comme qui si... lui travaille dans la série mais ne fait pas partie de la famille à proprement parler, et qui est du côté des SS au début du film.
Oui, puisque c'est un, comme toujours chez Visconti, chaque film a généralement une source donc littéraire, et c'est pour ça aussi on parlait du motif du trottard. Le trottard n'est pas uniquement au niveau des révélations, des épiphanies qui arrivent trop tard, mais c'est au niveau, c'est aussi le cinéma qui est trop tard. C'est-à-dire que pour Visconti, le septième art arrive après des six autres, donc il est trop tard au sens où les autres ont déjà épuisé les possibilités de création. Et curieusement, c'est le septième art qu'il voyait quand même comme un art désenchanté, un art qui tuait Laura, comme aurait dit Walter Benjamin, qui devait rédimer les six autres. Et donc, dans tous les films de Visconti, derrière le cinéma, le septième art, c'est 6+1. C'est pour ça qu'il y a les sources, bien sûr, littéraires, Lampedusa pour Le Guépard, Thomas Mann pour Mort à Venise, dans les années, c'est beaucoup plus intriqué avec une intertextualité très, très serrée.
On pense beaucoup à Shakespeare quand même, à Macbeth.
Il y a Macbeth, il y a aussi les Budenbrook de Thomas Mann, les possédés avec la figure de Stavrogin et donc l'épisode du viol de la jeune fille, de la petite fille juive et son suicide. Bien sûr, Égiste, Édipe, et donc tout charrie et tout, contribue à créer une histoire de plus en plus désaccordée, dont effectivement on voit mal quelle aurore pourrait germer à partir de ce constat de déliquescence totale. Puisque, comme je disais, les damnés, à la différence des damnés de Leibniz, ici, les damnés sont sans catharsis.
Qui sont les damnés de Leibniz ?
Dans les damnés de Leibniz, donc pour assurer le meilleur des mondes, il fallait absolument une fraction de réprouvés qui est émue par un seul affect, c'était la haine de Dieu. Et donc, comme la quantité de progrès moral donc est finie en termes mathématiques, Leibniz devait trouver un subterfuge, et ce subterfuge, c'est les damnés, parce que eux, a priori, ils se damnent pour l'éternité, puisque toute leur existence se réduit à un seul cri, c'est la haine de Dieu, le ressentiment, ce qui deviendra le ressentiment chez Nietzsche. Et donc, quelque part, le mal ici concourt au bien. Les damnés, en tant que... Oui, que par maudite permettent la circularité et le bon fonctionnement du tout. Or, chez Visconti, non. La damnation touche un à un chaque membre de la famille. Et même Günther, qui est le fils du S.A. Constantin, qu'on voyait comme le seul pur, hein, un peu un Parsifal au sens de la légende wagnérienne, il finira par être embrigadé par le nazisme. Et donc là, tout se referme. Dès qu'il y avait une issue, la fameuse phrase de Deleuze du possible, de l'oxygène, sinon j'étouffe. Ici, toutes les issues se referment petit à petit et la chape de plomb est totale.
Vous parlez de l'expression « les damnés ». Notons que Visconti ne l'aimait pas, et que d'ailleurs en italien, le titre, c'est « La chute des dieux ».
Tout à fait.
Ce qui est bien différent.
Tout à fait. Visconti abhorrait le titre « Les damnés » et il voulait donner donc le titre « Le crépuscule des dieux ».
Le crépuscule des dieux.
Oui. En référence, bien sûr, au quatrième tome de la tétralogie de Wagner. Et ce sera d'ailleurs ce sous-titre qui servira à Louis II de Bavière. Et donc, on peut voir, en plus du parallèle avec Shakespeare, le parallèle avec Wagner, parce que dans le Crépuscule des dieux, là, il y avait un après, puisque tout s'embrase, et sur la mort des dieux, la mort des gnomes et la mort des géants, la libération de l'homme est possible. Tandis qu'ici, la structure du film Les damnés, déjà si on regarde le générique, au début et à la fin, il y a cette image du feu au fourneau, d'embrasement, et donc il y a une circularité qui montre que l'histoire est proprement enrayée. Comme souvent chez Visconti, on peut penser bien sûr à la scène de la valse du Guépard, qui montre aussi une espèce de chronologie circulaire. C'est pour ça que j'ai fait l'hypothèse que Visconti, lorsqu'il essaye de convoquer l'histoire sur la scène cinématographique, par exemple l'histoire du Risorgimento dans Senzo, dans Le Guépard, il utilise des temporalités tout à fait fibrées. Il y a la temporalité événementielle, mais aussi il y a la longue durée, presque ce que on appelle la durée des annales de Brodel. Il y a quelque chose de une intemporalité sous la durée officielle. Donc sous Chronos, il y a une immobilité des structures si on les voit à partir d'un point de vue de surplomb.
Et ça, c'est une traduction technique directe dans le cinéma de Visconti, puisque c'est sa manière qu'il a de filmer, par exemple, les scènes de repas dans les damnés, où il va montrer un visage, puis un autre, de manière complètement indépendante, comme les visages qui deviennent autant de fragments, et tout d'un coup, la caméra qui va embrasser, voire tourner autour de cette table en entier, qui inscrit chaque instant dans une durée qui est celle du film, en réalité.
Absolument. Ou bien on peut voir aussi l'insertion dans certains films de Visconti d'énormes scènes quasiment immobiles que certains n'aiment pas, par exemple la scène la nuit des longs couteaux que Pasolini n'aimait pas du tout parce qu'il trouvait que ça c'était trop
alors c'était une scène de carnage incroyable donc les SS viennent massacrer les SA donc certains personnages du film et là pour le coup Visconti ne nous épargne rien et cette scène est troublante parce que alors on parle aujourd'hui de d'esthétisation de la violence chez Tarantino, alors il faut regarder les damnés de Visconti pour voir ce que ça peut être parce que c'est une scène magnifique, insoutenable et magnifique.
Bien sûr, il y a cette ambivalence. Et dans la plupart des films de Visconti, il y avait cette introduction de presque de fresque ou un opéra quasiment immobile que pour ma part j'adore parce que ça fait comme une rupture dans la trame narrative et ça montre la nappe d'éternité, donc le côté très proustien de Visconti. Dans Le Guépard, c'est bien sûr la scène du bal, ou dans Louis II de Bavière, c'est la scène des orgies, avec ses lumières, ce chromatisme, parce que je pense que Visconti aussi est un cinéaste qui est un peintre, qui est un musicien, puisqu'il y a aussi l'importance de la musique. Mm-hmm. Et donc les personnages sont aussi dépossédés, parce qu'il y a généralement des stimuli extérieurs qui les catapulte dans une espèce de somnambulie ou simplement dans le passé. Donc ça, c'est tout le côté viscontien, fameuses réminiscences.
Oui, mais en même temps, dans les damnés, est-ce que la lecture deleuzienne d'un cinéma néo-réaliste où finalement l'action est déconnectée de l'image tient? Parce que dans les damnés, le scénario, il est très clair, même si on apprend finalement, c'est un peu comme un film policier, hein, on apprend l'identité de l'assassin. Ouais. Parce qu'il y a un meurtre à la fin du film, mais on comprend assez les liens de cause à effet, y compris entre le nazisme et le délitement de cette famille, entre les relations affectives qui unissent chacun des personnages, et là aussi le délitement de ces liens-là. Ce qui a conduit un tel à tuer tel autre, c'est finalement, les liens sont assez évidents, non ?
Oui, mais on peut voir le néo-réalisme tel que le définit Deleuze, donc c'est-à-dire la rupture du champ sensorimoteur et l'entrée dans un cinéma de voyants, de personnages passifs. Les damnés l'exemplifient tout de même parce que chaque personnage est le pantin, soit de ses propres pulsions, soit d'Aschenbach, qui est la figure maléfique et qui réussit à utiliser, comme je disais, toutes ses faiblesses personnelles pour les mettre au service du nazisme. Et donc, je pense que là, l'histoire aussi, le désaccord, le délitement de la micro-histoire concourt au délitement de la macro-histoire et vice-versa. Donc, il y a cette circularité qui fait qu'effectivement, ce qui fascinait, je pense, Visconti, c'était les moments de crise, les moments où la situation dérapait, avec au début la possibilité de la rattraper, et puis, passé un certain seuil, il y a comme un irréversible.
I can't believe they've put Joachim's name on the prescription list. He's much too important to them still. Herbert, perhaps. It's probably Herbert.
Je m'attends à d'étranges événements pour cette nuit. Et ceux qui chercheront refuge dans la neutralité seront les perdants de la partie. J'ai le sentiment qu'on me réserve une mission. Et si je l'accepte, si j'accepte de saisir cette chance, alors ils m'accorderont tout leur appui. Et il n'y aura plus jamais d'Herbert, ni de Constantin, ni de Joachim. C'est moi qui deviendrai le maître. C'est moi qui commanderai. Toi et moi, Sophie.
Qu'est-ce que tu as décidé?
Ce sera la première décision que j'aurai prise, sans t'avoir consulté d'abord.
Tu as bien fait, Frédéric. Jamais je ne saurais trop t'encourager à viser très haut. Ose, ose. Ne te laisse arrêter par rien. Aucun ne te vaut, aucun d'eux ne te vient à la cheville. Tu as eu raison de patienter, de toujours dire oui, de les remercier, mais l'heure est venue de les faire expier. Pour que Herbert se repente de t'avoir évincé, et Joachim qui te traitait de haut, et Constantin qui te protégeait soi-disant, mais qui te retirait en sous-main ce qu'on t'accordait, c'est le pire de tous. Ah, n'aie pas peur, Frédéric.
Je n'ai pas peur. La première chose à faire, c'est de convaincre ton fils que je suis l'homme qu'il faut.
Je me chargerai de Martin. Je sais si bien ce qui l'intéresse.
Il y a un côté Lady Macbeth hein, à Sophie ici qui intrigue pour encourager son compagnon à assassiner qui il faut pour pouvoir s'asseoir à la place du roi.
Oh, absolument, c'est vrai que Sophie est donc le prototype de l'amante religieuse et on peut voir, comme dans Shakespeare, lorsque Macbeth faillit, lorsque il a des remords ou lorsque simplement il recule par rapport aux possibilités du crime, il y a Lady Macbeth, la femme qui dans l'ombre vient affûter le poignard. Et ici aussi, chaque fois que Friedrich donc recule, c'est Lady Macbeth qui instigue et qui rallume ce feu, cette volonté de puissance et cette folie du pouvoir. Parce que on n'a peut-être pas suffisamment dit jusqu'alors, mais quand Visconti émet un diagnostic quand même assez désenchanté sur la modernité, un peu comme le diagnostic de Pasolini quant à la fin des Lucioles, il ne faut pas l'interpréter sous un angle conservateur, passéiste ou nostalgique. Au contraire, il y avait un grand progressisme dans l'esprit de Visconti. Mais si l'on part du Risorgimento d'abord, qu'il voyait comme une révolution sans révolution, une révolution trahie, une révolution bourgeoise, par la suite la Résistance, les deux grandes promesses révolutionnaires et d'émancipation, Risorgimento et Résistance, dans l'après-guerre, n'ont pas accouché aux yeux de Visconti et aux yeux de Pasolini, mais ce serait peut-être un peu trop difficile de faire le parallèle de leurs promesses. Parce que lorsque on dit souvent que Visconti décrit, comme ici dans Les Damnés, la déchéance d'une haute famille aristocratique ou d'une famille qui détient la puissance financière, il s'inspire directement des Krupp, donc qui étaient les grands détenteurs des aciéries. Il n'y a pas que ce déclin, cette décadence de l'aristocratie qui le chagrine. Il y a surtout la trahison de la promesse de l'émancipation du prolétariat, puisque les deux, et la bourgeoisie et le prolétariat, ont été avalés par ce qu'il appelle déjà le consumérisme, et donc une bourgeoisie qui est simplement animée par ce que j'appelle la légende du roi Midas, ce qu'on voit dans Les Damnés. Donc la soif de pouvoir, la volonté de détenir l'argent est telle que toute la... Mais c'est ce qu'on voit aussi dans L'Or du Rhin, bien sûr, dans la tétralogie de Wagner, qu'on peut lire comme dans Libelle contre le capitalisme, puisque c'est l'anneau, l'or, l'argent, le matérialisme des gnomes, des Nibelungs, qui signe le défaut de spiritualité d'une époque.
Mais dans quelle mesure est-ce qu'on peut lire Les Damnés comme étant l'expression d'une thèse de la part de Visconti qui consiste à dire que le capitalisme a été le terreau du nazisme?
Il a toujours établi effectivement cette coïncidence nazisme et capitalisme qui peut effectivement désarçonner certains, mais c'est parce qu'il voyait dans la volonté de puissance du nazisme, dans cette espèce de logique mortifère, de pulsion de mort et de victoire de Thanatos, le même principe que dans le capitalisme, la soif de l'argent, sans plus les valeurs spirituelles, les valeurs du sacré.
On entendait dans l'extrait qu'on vient de diffuser, le personnage de Friedrich qui disait « de grandes choses vont se passer cette nuit ». On était au début du film.
Oui.
Et les partisans de la neutralité seront les perdants. On a à la fois l'expression de l'aube de quelque chose va se passer. Il faut s'engager, on a aussi le sens d'une forme d'engagement, on ne peut pas rester neutre. Mm-hmm. Et donc tous les efforts vont consister à essayer de trouver de quel côté est-ce qu'on va s'engager, mm-hmm. pour ceux qui ont le choix. Il faut saisir cette chance quelque part. Est-ce que là, on est... est-ce que c'est aussi une forme d'expression de ce que vous appelez l'esthétique du trop tard? Parce que là, il sait qu'il va devoir agir. Est-ce que c'est ce qui précède le trop tard ou...
Mais c'est-à-dire que le trop tard est lié, bien sûr, au trop tôt. Donc, le trop tard arrive parce que certains protagonistes... Il avait encore, effectivement, la possibilité. Sauf que, si on regarde le casting des damnés, le seul qui s'oppose à la machinerie du Troisième Reich, c'est Herbert, un libéral. Tandis que les autres, pour des raisons parfois même périphériques, vont se rallier à la logique du pire, à la logique du crime. Et donc le trop tard est un trop tard qui a peut-être, il a plusieurs inflexions aussi, plusieurs visages.
Dans les damnés, prend quelle forme du coup ?
Je dirais que dans les damnés, mais comme dans les autres films, il est à la fois conjoncturel, donc il arrive parce que Friedrich a accepté telle compromission, Günther aussi, et à la fois, je dirais que le trop tard est structurel, c'est depuis toujours trop tard. Donc il y a l'ambivalence chez Visconti, c'est-à-dire que quelle que soit la résolution qu'on prend, l'histoire était vouée à hoqueter et à sortir de ses gonds. Donc c'est assez ambigu de sentir que quelque part les jeux, contrairement à ce que Sartre disait ici, les jeux sont toujours déjà faits.
Mais c'est une lecture quasiment chrétienne, du coup l'homme naît d'emblée pécheur ou damné, reprendre la référence que vous faisiez au damné de Leibniz, hein, qui fait que quoi qu'il fasse, de toute façon il sera du mauvais côté. C'est déjà naître, c'est déjà ensuite s'inscrire dans une temporalité où c'est trop tard pour pouvoir agir et bien agir.
À partir du moment où effectivement les personnages sont la proie de et plus en prise sur une situation, effectivement ils n'ont plus la possibilité de remanier une histoire puisqu'ils ne font pas cette histoire, ils sont davantage mus par elle, façonnés par elle et déformés par elle. C'est vrai qu'il faut peut-être rappeler que dans le scénario des damnés, on peut voir une structure en forme de triptyque. Il y a d'abord la première partie qui termine par l'incendie du Reichstag, la seconde partie avec l'énorme scène la nuit des longs couteaux et donc l'élimination des SA par les SS, et la troisième partie qui montre quand même un renversement de pouvoir, mais qui ne change rien parce que simplement, Martin, au lieu d'être assujetti à la loi folle de sa mère, un matriarcat complètement délirant, après la scène de l'inceste, qui est une obsession chez Visconti comme chez Thomas Mann, parce que chez lui, contrairement par exemple à Deleuze ou à Robert Musil, pour qui l'inceste pouvait être l'accès à un autre état, à une libération, chez Visconti, c'est souvent une régression, un retour à l'origine, et donc l'affirmation de l'anarchie, l'avancée dans le chaos. Et donc, la dernière partie, c'est un renversement des pouvoirs, mais Martin, au lieu d'être subordonné à la folie de la loi maternelle, est subordonné à la folie de la loi des SS. Et donc là, le final est un final extrêmement dur aussi, puisque on peut penser à la mort d'Eva Braun et de Hitler, puisque Martin exige donc la célébration du mariage entre sa mère et son beau-frère, et il dépose deux pilules de cyanure. Donc là, il y a effectivement une espèce de balle des têtes au sens de Proust. À la fin de la recherche, parce que tout est condamné. Et effectivement, à travers son matricide, il se tue lui-même. Quelque part, même les vainqueurs sont vaincus. Ça, on n'a pas encore exploré, mais dans le traitement de l'histoire chez Visconti, un critique, Aristarco, avait noté déjà la façon dont Visconti détemporalisait l'histoire, déshistorisait l'histoire et surtout laissait dans l'indéterminé l'issue des batailles. Donc il y a une ambivalence, une ambiguïté dans la lecture de l'histoire.
On va se quitter en écoutant La Callas, puisque Visconti a mis en scène plusieurs opéras, dont La Traviata avec La Callas. Merci beaucoup à vous, Véronique Bergen, d'être venue nous parler de Visconti. Je renvoie les auditeurs qui auraient envie d'en savoir plus sur Visconti, sur Deleuze, sur Les Damnés, sur d'autres films de Visconti, donc à votre livre Les Promesses du Crépuscule, Luchino Visconti, évidemment, de vous, Véronique Bergen, aux éditions des Impressions Nouvelles. Voici La Traviata, A Forse Lui, peut-être une expression du « déjà trop tard ».
Oh, forse
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les vendredis, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Après l'élection présidentielle, votre chronique et vos conseils continuent puisque les élections législatives arrivent. Alors à qui avez-vous décidé de donner un conseil aujourd'hui ?
Bien, c'est un conseil en forme de SOS aujourd'hui. C'est un appel à sauver Manuel Valls. Car oui, comment notre ancien Premier ministre, plus trop socialiste, est stoppé en pleine marche, tout seul désormais face à 21 candidats, dont les bien connus Dieudonné et Francis Lalanne, peut-il encore gagner les législatives sur ses terres dans l'Essonne ?
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
Alors la dernière fois que j'ai donné un conseil à Manuel Valls, c'était en décembre dernier. On peut reconnaître que ça n'a pas trop marché. Le conseil que je lui donnais portait alors sur le rassemblement, sur ce mot que les politiques ont sans cesse à la bouche, Emmanuel Valls le premier. Et ironie du sort, non seulement Manuel Valls n'a pas rassemblé, mais il se retrouve des mois après bien esselé.
Au moment où nous voulons rassembler largement, ne pas donner l'impression d'humilier, de rejeter, d'être dans une vindicte qui pourrait être lue, du moins, par vous-même ou par d'autres, eh bien, à ce stade, nous n'investirons pas de candidate ou de candidat. Donc nous n'investissons pas l'intéressé, mais nous ne lui opposons pas, a priori, de candidate et de candidat.
Jeudi 11 mai, jour de présentation des candidats pour La République En Marche, Manuel Valls, l'intéressé, a donc appris qu'il n'avait pas obtenu l'investiture sous cette étiquette. En cause, il ne répondait pas aux critères. Alors respect des règles ou simple prétexte, cet argument en tout cas masque mal le paradoxe qu'il y a à dire dans la même phrase que l'on veut à la fois rassembler, ne pas rejeter, ne pas humilier et en même temps le faire. Mais lui, Manuel Valls, comment en est-il arrivé là ? Comment de Premier ministre en est-il arrivé à être à la fois sous le coup d'une procédure d'exclusion du Parti Socialiste et rejeté, car c'est le cas, par le mouvement d'Emmanuel Macron ? Comment, autrement dit, en est-il venu à incarner ce paradoxe en politique et même du mouvement le plus ouvert qui soit, que pour rassembler, il faut exclure, pour être fort, il faut désigner un faible, pour être nombreux, il faut bien quelques solitaires.
Satisfait, bien sûr, de voir le score d'Emmanuel Macron, parce que incontestablement, et c'est pour ça que je l'ai soutenu, il représente un changement et une espérance. Et aussi, en même temps, triste pour le Parti Socialiste, pour son histoire, ses valeurs, ce qu'il a fait quand il était au gouvernement, par les acquis sociaux, le progrès qu'il a pu apporter pour ses militants, pour ses sympathisants, pour ses élus, pour ses électeurs.
Comment Manuel Valls en est donc arrivé là ? Eh bien, peut-être parce qu'il n'a pas été très clair lui-même, comme on l'entend, à être à la fois satisfait pour La République En Marche, qu'il a d'abord critiqué, et triste pour le Parti Socialiste qu'il a lui-même lâché. Peut-être parce qu'il y a ainsi des stratégies qui échouent et des risques qui ne payent pas. Et peut-être surtout parce qu'il a mis au jour, rendu public, ce que chacun soupçonne, mais aussi suspecte, à l'égard des hommes politiques, à savoir de vouloir œuvrer en politique et pour tous, mais d'être malgré tout toujours seul. Voilà ce que Manuel Valls a révélé, la solitude profonde de l'homme politique, celle qu'il recherche à vouloir dominer les autres, ce dont on a suspecté Manuel Valls, ou celle qu'il subit pour l'avoir précisément recherché et que Manuel Valls paie désormais au centuple. Mais pourquoi la solitude serait-elle donc si douteuse ? Dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie, Schopenhauer fait au contraire de la solitude le seul état où l'on est vraiment soi, l'unisson parfait, l'union même, le seul vrai rassemblement possible, jusqu'à faire de l'isolement le signe d'un rang élevé et de sa grandeur. Au point que l'on en serait presque à se demander si être seul, comme l'Emmanuel Valls, est plus qu'un risque du métier ou un vice de l'homme politique, mais la condition même pour gouverner.
Moi, j'ai choisi d'abord, comme je l'ai fait toujours, l'intérêt de la France et l'intérêt, d'une certaine manière, de la gauche. J'aurais mieux fait peut-être de me planquer, de ne pas donner un avis. Mais enfin, quoi ? Un responsable politique qui ne donne pas son avis ? Il y a eu des responsables gouvernementaux qui ont été incapables, avant le premier tour, de donner leur avis. Et qui, hier soir, bien évidemment, tous disent « il faut faire barrage au Front National ». Mais enfin, la belle affaire.
Dans ces mêmes aphorismes, Schopenhauer affirme, je cite, « qui n'aime donc pas la solitude, n'aime pas la liberté ». À croire qu'il en a fait la lecture, Manuel Valls se présente justement aux législatives en homme libre. Et pourtant, loin de voir la solitude, comme Schopenhauer, comme une retraite absolue, jamais troublée par le fréquent entourage d'êtres hétérogènes, Manuel Valls, lui, ne se planque pas. Il revendique désormais sa solitude, ni victime ni bourreau, mais à la revendiquer ainsi, goûte-t-il vraiment la noblesse de la solitude, de la liberté ou d'être lui-même ?
Est-on jamais seul quand on fait de la politique, hein? C'est bien la question qui se pose. Alors, votre conseil à Manuel Valls, Géraldine Mostasavoie?
Eh bien, Adèle, la question c'est comment allier fidélité à soi, à ses principes, liberté et politique, c'est-à-dire jeu de pouvoir, mais aussi plus positivement, gouvernement de tous et vivre ensemble. C'est la question qui agite tout politique ou tout homme même hein, qui vit en société. Et si elle est insoluble, je conseillerais quand même à Manuel Valls de lire dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer le chapitre de ce que l'on représente, qui lui permettra au moins de jouir de sa solitude sans en faire un étendard.
L'appel est donc lancé, l'invitation à Manuel Valls de lire ses aphorismes sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer. Et pour ce faire, on peut écouter, réécouter votre chronique, Géraldine.
Mais j'espère.
Sur le site des Chemins de la Philosophie, peut-être va-t-il vous écrire pour vous remercier. En tout cas, moi, je vous remercie pour cette chronique quotidienne. À réécouter donc et télécharger sur le site des Chemins de la Philosophie, ainsi que celle d'aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui consacrée à Visconti et la philosophie du cinéma. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine. Nouvelle semaine, un grand défi que nous allons relever avec vous, chers auditeurs. Une semaine sur Être et temps de Martin Heidegger. Qu'est-ce que le design? Qu'est-ce que le bavardage? Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que le monde? Quatre questions assez simples, redoutables, décisives pour comprendre ce texte. Et vous verrez, avec quatre interlocuteurs hors pair, qui vous permettront de comprendre ce texte qui fait si peur. Alors bien sûr, on esquivera aucune difficulté liée au texte et à la figure et au rôle de Martin Heidegger dans sa propre vie. Des émissions à écouter dès lundi, donc de lundi à jeudi, sur France Culture. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Livia Garrigue, Nicolas Bouteloup, Marianne Chasseur, Marie Aubert cette semaine, Antoine Ravon, Géraldine Mostin-Savoie bien sûr, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, Nicolas de Pagraff et Pierrick Monsigny. Rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires et mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. À 11h, sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde. Mais tout de suite, il est temps de retrouver votre feuilleton quotidien, La Vie Moderne.